Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Alors les GG cette semaine, ce qui nous marque évidemment, c'est la demi-finale de Ligue des Champions. On a eu la phase aller, on en a parlé avec la victoire 5-4 du Paris Saint-Germain face au Bayern. Et on attend avec impatience le match retour mercredi à 21h à vivre sur RMC. Alors je voudrais qu'on parle de ça à travers vos expériences les amis. Comment on aborde un match retour? Alors vous n'avez pas de match retour dans vos sports, hein, cyclisme, judo ou tennis, enfin, un petit peu quand même, mais plutôt la revanche. Ce qu'est la revanche dans le sport, à quel point ça sert de carburant et comment on se sert du match d'avant peut-être aussi pour aborder le suivant. Je voulais qu'on parle de ça ensemble. Tiens, David, toi dans ta carrière, la notion de revanche, la notion d'aller chercher le match d'après en se souvenant du précédent. Comment tu marchais là-dessus, toi?
Bah, en fait, j'étais pas dans l'esprit de revanche. Parce que si t'es là-dedans, t'es dans le, enfin, ta base de départ c'est le passé. Or t'as le présent à gérer et ce que tu vas construire, donc le futur. Et revenir dans le passé pour faire des fondations de ce que tu vas faire là, j'ai jamais trouvé que c'était très très efficace. Voilà, moi je me forçais à me persuader, et c'était assez simple, que j'avais une nouvelle personne devant moi. Et en plus, c'était pas faux, parce que le type, depuis la dernière rencontre, avait changé énormément de choses, probablement dans sa façon de faire, son judo, sa tactique. Il avait élaboré sans doute d'autres techniques, etc., etc. Donc, il fallait aborder les choses d'une manière fraîche et nouvelle. Sinon, t'as un temps de retard, quoi.
Donc, quelqu'un qui t'a battu, par exemple, parce qu'il y en a eu, hein, quand même, hein, dans ta carrière, en particulier de ta domination. Mais quelqu'un qui t'a battu, par exemple, t'as pas derrière, on va dire, ce carburant-là, de dire ce mec m'a battu, j'ai envie de le taper derrière, j'ai envie de rétablir les choses, quoi.
Non. J'étais extrêmement concentré sur les points forts qu'il venait de montrer là pendant la compétition, dans les tours qui ont précédé le jour J. Tu vois, t'as toujours le temps d'observer ton adversaire quand tu le prends en demi-finale ou en finale sur les tours préliminaires. Et là, je me disais ah ouais, tiens, il fait ça, c'est nouveau.
Tu nous as parlé une fois d'un Géorgien qui t'avait tapé en début de championnat d'Europe. Quand tu le retrouves derrière. Tu penses pas à ça? Qui t'a aimé une rousse même, ça existe.
Quand je le reprends au championnat du monde quelques mois plus tard, je le rencontre en finale des Europes. Il me met une danse. Quand je le reprends après, j'avais toujours pas compris comment j'avais perdu au championnat d'Europe. Ça avait été tellement vite, j'avais rien vu, vraiment. Je m'étais retrouvé dans les luminaires du stade au Championnat d'Europe. J'étais en planche en l'air et j'avais toujours pas compris. Et je le prends au Championnat du Monde. Et au Championnat du Monde, je me dis bon, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc j'ai passé, alors au-delà de passer mes tours à moi où j'abordais d'autres adversaires, mais j'ai passé mon temps à le décortiquer ce jour-là.
Ah, quand même, le jour même.
Oui, le jour même. Et bah oui, parce que ça sert à rien de prendre des informations qui sont passées, parce que il a encore pu évoluer. Ce qui est important, c'est d'avoir les données les plus fraîches à mettre dans ton équation, à mettre dans ton moteur. Et là, c'était le cas. Et donc ça m'a servi, parce que j'ai pas du tout placé mes mains sur son corps, sur son kimono de la même manière qu'avant, ce qui fait que en les plaçant différemment, eh ben il a pas pu lui-même mettre les mains sur son propre volant et tout de suite on était dans une situation où il a eu le doute, il pouvait pas prendre l'ascendant et je l'ai battu au final.
Mais ce qui prouve quand même que tu n'avais pas tout oublié non plus. Tu n'avais pas tout oublié non plus de votre confrontation. En tout cas, tu l'as observé derrière.
Et il a fait la planche.
Ce que je dis, c'est évidemment, tu peux pas oublier. Mais ça doit pas être la base ça doit pas être la source de ta motivation, ni même, parce que t'as pas le temps. Bien sûr qu'il faut que tu le battes. Tu le sais qu'il faut que tu le battes. T'as pas besoin de te dire, ah oui, il m'a battu, je vais prendre ma revanche, etc., etc. Ça sert strictement à rien. En revanche, si tu te concentres sur le présent, t'as toutes les chances, pour le coup, d'être au rendez-vous.
Bennett, pour le coup, dans tennis, je rappelle, on est sur comment on aborde une revanche, dans le sport de haut niveau. C'est vrai que vous vous affrontez souvent, sur le circuit. Est-ce que toi, t'as eu des choses comme ça? C'est-à-dire face à un adversaire qui t'a embêté et que tu te dis, bah, la prochaine fois, il va falloir faire autrement.
Oui, mais alors c'est pas un esprit revanchard au sens propre qu'on peut l'entendre, ou la cour de récré, tu sais, où on dit tiens, je vais prendre ma revanche, on a perdu au foot contre eux, on va prendre.
Et à côté match retour quand même.
Alors nous, c'est y a un côté où c'est d'analyser et d'essayer de faire des choses un petit peu différentes. Tu vois, c'est marrant parce que hier, il y a un journaliste du quotidien sportif qui m'a appelé pour préparer le match de l'équipe. Zverev, Sinner. Zverev, il reste sur 8 défaites de suite. Donc c'est comment, lui, il me dit que c'est un peu sa bête noire, le côté bête noire. Alors, comment tu penses qu'il doit aborder le match aujourd'hui pour essayer de qu'il y ait un résultat différent? Et donc c'est d'essayer de trouver des petites choses.
T'en as eu des bêtes noires?
Ouais, je pensais que j'avais gagné une fois, mais il y a un Finlandais qui est pas très connu qui s'appelle Jarkko Nieminen, et je suis à 6-0, 0-6. Je pensais que j'avais gagné une fois.
Donc, tu l'as jamais battu?
Jamais battu, double pigeon. Parce qu'au tennis, quand on perd 3 fois de suite contre le mec, on dit qu'on est son pigeon, et quand tu perds 6 fois de suite, t'es le double pigeon. Donc je suis son double pigeon. Et Gilles Simon.
C'est sa petite poule, quoi.
Voilà, exactement. Et Gilles Simon.
Ça te rend pas fou, ça, justement. À un moment donné, ça te sert pas dans.
Mais si, ça rend fou, mais tu trouves pas la solution. Et Gilles.
Tu as essayé de lui casser la raquette sur la tête.
Mais Gilles, j'ai perdu beaucoup de fois au début. Et après, j'ai réussi à gagner 2 ou 3 fois de suite. Et après, il m'a rebattu. Et quand tu trouves une petite clé où là, il y a une vraie satisfaction, parce que tu es obligé de changer des choses tactiquement dans ta manière de jouer. Tu sais que tes forces, lui, il les annihile naturellement. Donc, et ses forces à lui t'embêtent vraiment. Comment tu fais, et de chercher de jouer pas à contre-cœur, mais ou contre-nature, mais d'employer une tactique qui est vraiment pas dans ton ADN, entre guillemets, pas dans ton style de jeu naturel, et de trouver des solutions grâce à ça, c'est aussi très
c'est risqué aussi.
C'est risqué parce que mais t'es obligé à un moment donné. C'est-à-dire, il y a rien de plus bête dans la vie que d'espérer un résultat différent sans changer quoi que ce soit. C'est une lapalissade, mais c'est tu ne changes rien et t'espères un résultat différent, ben t'es un peu con, excuse-moi. Et donc
oui, c'est ça, oui.
C'est risqué.
C'est la définition du con.
Exactement. Ouais. C'est risqué, mais c'est nécessaire. Et au moins tu peux perdre.
Mais t'as tenté quelque chose.
Exactement.
Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans la dimension, alors je sais pas si on va appeler ça la revanche, mais on va rester sur ce mot un peu valise là, mais il y a le côté peut-être de se dénaturer pour essayer de faire quelque chose de différent, finalement.
Ah ben,
de se réinventer.
Ah, mais
ouais. C'est-à-dire que la personne en face, t'as tellement fait déjouer que tu dois tenter quelque chose à l'opposé parfois de toi.
Exactement. Ouais. T'es tellement inefficace avec ce. Bah, tu fais quelque chose. Pour revenir, parce que là, on parlait du match retour Bayern-PSG. Je suis pas sûr que le Bayern, dans leur tête, ils disent, attends, on va prendre la revanche du match aller. Ils vont être, il y a un but d'écart, ça va être différent. Mais dans un esprit revanchard, entre guillemets, où trouver une solution contre un adversaire ou contre une équipe qui te pose des problèmes de manière récurrente, bah oui, t'es obligé de réfléchir de manière un peu plus élaborée et différente pour trouver des solutions.
Comment on aborde une revanche, un match retour, enfin surtout la dimension psychologique dans le sport de haut niveau. Marc, dans le cyclisme, il y en a eu des grandes rivalités.
Oui, évidemment.
Il y a eu Coppi Bartali, Anquetil.
Anquetil Poulidor, c'est là-dessus que je voulais aller.
Ah ben voilà, non mais à quel point l'un alimentait l'autre
L'un alimentait l'autre, mais surtout. En fait, quand on se retrouve dans ce genre de situation dans le sport, il y a forcément un moment ou un autre où il y a un ascendant psychologique. Et si on revient sur l'histoire Anquetil-Poulidor, Anquetil était entré dans la tête de Poulidor.
Anquetil a gagné 5 tours, Poulidor 0,
0 maillot jaune, mais il a quand même été celui qui s'est rapproché le plus et celui qui a mis le plus en difficulté Anquetil, notamment en 64. Et je pense que Anquetil a été extrêmement machiavélique, parce qu'en 64, il bat Poulidor de justesse sur le tour. Et en fait, dans les années qui ont suivi, Anquetil ne s'est jamais retrouvé en situation de jouer la gagne du tour. Et comme s'il avait fait abstraction de vouloir se retrouver à nouveau face à Poulidor. Et jusqu'à ses derniers instants de vie, Anquetil a eu cet ascendant sur Poulidor, parce que quelques heures ou quelques jours avant sa mort, Anquetil a dit à Poulidor, tu vois, tu vas encore faire deux.
non mais là pour le coup c'est intéressant.
Et c'était
parce
la réalité. Anquetil est décédé quelques quelques heures ou quelques jours plus tard, il se savait condamné. Mmh. Et Poulidor a encore fait deuxième.
Dans son identité de champion, il y avait la rivalité. Le carburant de la rivalité. Toi, t'as eu des rivaux?
Non, mais enfin, moi, je ne me suis pas retrouvé dans ce genre de situation. Mmh. Mais il y a eu d'autres cas, d'autres histoires dans le cyclisme. Par exemple, en ce moment, et en cyclocross, tous les hivers, on a Wout van Aert contre Van Der Poel. Et là, on a, oui, vraiment un match en tête à tête. Mais en cyclisme, c'est assez rare les têtes à tête. On l'a en cyclocross. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Et Evan, on a Pogacar avec
Marc, même chez les plus jeunes, même chez les cadets, tout
non,
ça, les juniors.
Non, mais ça dure pas longtemps. Non, mais
oui,
moi,
je me suis... parce que t'as parfois des justement quand vous grandissez, vous avez qui est le leader générationnel. Vous êtes tout peut-être un peu construit là-dessus. Ouais, qui est le meilleur de France, David en judo, qui est le meilleur en tennis, Bennett.
En vélo, il y avait du monde.
Toi, Marc, tu t'es jamais construit là-dessus. C'est quoi? Tu te concentrais sur toi?
Bah moi, je me concentrais sur moi, mais j'étais pas dans des. Je me suis jamais retrouvé dans des situations telles qu'on veut décrire la rivalité et la revanche.
T'as jamais eu au départ d'un Paris-Roubaix, par exemple.
Comment?
T'as jamais eu au départ d'un Paris-Roubaix avec que tu voulais taper absolument?
Non.
Ils voulaient tous les taper.
Non. Une fois, Roubaix, tu viens pour gagner. Tu viens pas pour battre un tel ou un tel. Tu viens pour gagner une course.
Mais toi, de toute façon, au départ, tu vas dire c'est une revanche sur moi-même. Tu es capable de nous dire.
Non. Je n'étais pas en revanche. Non. J'étais plus dans l'accomplissement de mon propre destin.
De ton propre destin. Exactement. Tu nous le dis souvent. Ici, c'est un mot que tu utilises souvent et qui est important dans ta construction.
Je pense le. Le destin en sport, c'est quelque chose d'important. Mmh. On est fait ou on n'est pas fait pour quelque chose.
T'es accroché à ces dimensions mystiques et même aux courses qui le sont également et qui le.
Évidemment. C'est comme ça que je ressens le sport. Peut-être qu'on peut le. On le vit, on l'interprète différemment et c'est tant mieux.
De savoir ce qui vous anime tous dans la haute performance. David, tu voulais acheter quelque chose?
Non, mais Julien, pour gagner, et c'est peut-être un petit message aux plus jeunes, et etc. S'ils aiment la gagne, s'ils ont envie de gagner, la revanche, sous-entendu la frustration, sous-entendu la rancœur, sous-entendu même on pourrait dire la colère, c'est vraiment de la pollution qui ne sert strictement à rien. Voilà. Si on est capable de mettre ça de côté et de n'être que dans la construction du présent, pour optimiser tout ce qu'on peut faire, c'est les meilleures clés pour gagner. Le sens du mot revanche, enfin en tout cas la terminologie de ce mot-là, en réalité, il n'est pas bon pour lui.
C'est un carburant négatif, tu penses, toi, en fait. C'est pas quelque chose qui te pousse vers le haut.
Il y a peut-être un sport dans lequel la revanche, avec tout ce que ça. Exactement.
J'étais sûr que tu allais dire ça.
Bon, bah voilà, je me tais, vous disiez.
Ah non,
il y a un côté mystique,
dans ce que tu es.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
Mais pourquoi, Bennett, pourquoi tu dis ça, après, David?
Parce que c'est. Le contexte est plus ou moins le même, c'est le même ring, les deux mêmes boxeurs, à quelques mois d'intervalle, on va dire à 4 ou 5 mois, et il va y avoir l'analyse de la part des deux clans. Où est-ce que tu l'as battu? Comment? Pourquoi? Où est-ce que toi t'as perdu? Qu'est-ce qu'il va falloir renforcer? Et donc ce côté, et puis aussi il y a le côté. Quand on parle de revanche, quand on dit revanchard, il y a un peu le côté bataille, bagarre, combat.
La boxe c'est vraiment construit son schéma autour
Tu vois, Julien, précisément, quand t'es dans un sport de combat et que tu parles de bataille, de bagarre, t'as dit les deux mots pour perdre. C'est-à-dire, un combat, c'est tout sauf de la bagarre et c'est tout sauf de la bataille.
Ah, mais...
Un combat pour le gagner, ce n'est que de la réflexion, ce n'est que de la stratégie, ce n'est que de la lucidité. Si tu te laisses aller dans la bagarre, t'es archi mort.
C'est ce que j'allais dire. Voilà, Mohamed Ali, quand il perd contre Joe Frazier, son carburant, c'est aussi de le retrouver pour le battre et de retrouver son statut.
Casser la gueule,
il s'est pas bagarré.
Plus que la notion de revanche, comme le disait peut-être Marc, il y a quelque chose de plus mystique. Ali, il se bat aussi pour montrer une sorte de résurrection. Mmh. C'est-à-dire que, regardez, vous m'avez donné comme mort et je revis, en fait. Il va chercher quelque chose de différent,
c'est
David. Mais David, toi, c'est aussi ce qui t'arrive quand plus personne peut-être ne croit en tes capacités à être champion olympique à nouveau. Ce que tu vas chercher, c'est pas la revanche, c'est la résurrection.
Oui, c'est ça. Tu tel le phénix, tu renais de tes cendres, quoi. Tu dis voilà, je suis pas mort. Regardez, j'ai travaillé. Voilà le niveau auquel j'ai réussi à revenir. Mais t'es pas dans l'aigreur ni la frustration ni le passé.
Mais vous pensez pas en tennis, Bennett, Yannick Sinner quand il perd en finale de Roland Garros contre Alcaraz au bout de 5 heures, il pense pas à prendre sa revanche un mois plus tard à Wimbledon. Moi, j'ai l'impression que ces deux-là s'alimentent sur un coup je vais gagner. Est-ce que c'est la revanche ou est-ce que c'est la rivalité?
Ils vont pas forcément le dire, mais ils vont forcément y penser.
C'est les deux. C'est une rivalité.
Comme Rafa et Roger
Federer. C'est les deux, c'est revanche et rivalité.
Non mais après t'as plaisir à rencontrer quelqu'un qui est plus fort ou aussi fort que toi, parce que t'es pas dans la revanche, t'es dans le duel. Le duel qui continue. Tout à l'heure on parlait de Senna et de Prost, c'en est l'illustration. Le duel, continue. Voilà, il y en a un qui gagne, le duel continue. Ah bah c'est l'autre, le duel continue. T'es dans un espèce de duel perpétuel.
Ah, David,
tu vois les deux athlètes grimper ensemble, créer une émulation
parfois
réciproque,
négative, parfois négative entre Prost et Senna.
Mais surtout pas que ce soit négatif pour le coup.
Marc,
il y a une image qui me revient à l'instant, c'est quelques secondes après l'arrivée de Paris-Roubaix cette année, quand Van Aert bat
Poggi,
et le premier qui vient féliciter Van Aert, c'est Van Der Poel. Ouais. Et pour avoir suivi plusieurs affrontements entre les deux, notamment en cyclocross ou ailleurs, quand l'un faisait premier, l'autre faisait deuxième, il n'y avait pas cette osmose et cette communion qu'il y avait entre les deux qu'il y a eu au moment de l'arrivée de Paris-Roubaix. J'ai trouvé ça très particulier. Et je suis sûr d'une chose, c'est que Van Der Poel ne faisait pas semblant. C'est-à-dire que, il avait retrouvé
son vrai rival.
Il avait retrouvé celui qui l'a fait se sublimer. Exactement. Et je suis persuadé que dans les mois qui viennent, ou dans les courses qui vont arriver, à un moment ou à un autre, on va retrouver le match Van Der Poel-Van Aert. Au meilleur de leurs capacités, l'un et l'autre.
Mais tu vois, et est-ce qu'on va retrouver
Marc, t'as tout dit. C'est exactement ça, t'as tout dit. En fait, ton plus grand rival, ton plus gros, bel adversaire, mais tu l'adores parce que c'est grâce à lui que tu vas au bout du bout du bout. C'est grâce, tu t'appuies sur ses énormes qualités pour essayer de faire mieux. Et ça devient une espèce de compagnon de route qui, c'est quasiment plus un adversaire, c'est un partenaire de route, tu vois.
Ouais, c'était le Japon.
Mais c'est vrai. Je t'assure. Et là, il y a un respect. On pourrait parler d'une forme d'amour, quoi, vis-à-vis de l'autre. Tu vois, on n'est plus dans, je te hais, je vais te casser la gueule, etc. Non, c'est l'inverse. T'es tellement bon que grâce à nos duels, tous les deux ont grandi ensemble. Ok, tu me bats, je te bats, etc., etc. Mais il y a un partenariat qui s'instaure, qui est juste magnifique.
C'est le cas de Prost Senna, et on en parlait tout à l'heure de ce petit message que Senna envoie à travers les médias à Prost quelques heures avant de se tuer. On s'est affronté, on s'est détesté. Ils se sont vraiment détestés, je pense. Ces deux-là, ça a été vraiment une détestation. Ils étaient prêts à sur les derniers Grands Prix de la saison à Suzuka, quand le titre se joue, l'un et l'autre se mettent dehors. C'est un sentiment de revanche. Tu parlais de choses négatives, David, tout à l'heure. C'est une revanche qui a été parfois toxique entre les deux.
Ils ont évolué. Après,
n'était plus là. Là, il s'est senti seul, abandonné.
L'une des plus belles images, c'est qu'à la fin,
il porte le cercueil.
Il
se demandait d'ailleurs s'il serait le bienvenu au Brésil.
Exactement. Alors que je pense que 5-6 ans avant, c'était inenvisageable. Mais oui, alors là, on parle de rivalité, de duel, de ce qui se fait de mieux au monde dans chaque discipline. Van Der Poel, Van Aert, c'est exceptionnel. Prost Senna, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, Sinner Alcaraz, ça a repris le flambeau des Roger, Rafa, Djoko. Et donc, quand ils atteignent ce niveau-là,
le sublime.
Et en fait, ils se subliment mutuellement, et il y a une forme de respect qui arrive. Et quand que Van Der Poel va féliciter Van Aert, parce qu'il sait ce que ça signifie pour Van Aert de gagner Roubaix, lui, il l'a déjà gagné 3 ou 4 fois, Van Der Poel. Van Aert était toujours, entre guillemets, dans l'échec sur cette
épreuve. Il avait tout eu contre lui, quoi.
Effectivement, il fait pas semblant. C'est pas un adoubement, mais il dit OK. Tu l'as mérité, tu viens de le faire. En plus, t'as battu Poggi, bravo. Enfin voilà. Et leurs prochaines retrouvailles n'en seront que plus belles. Et ça, c'est vrai, c'est le narratif de chaque duel, revanche, que tu veux, rivalité. Suscite l'admiration.
Non, mais c'est, de toute façon, t'as dit le mot juste, c'est le narratif qu'on installe, nous aussi, médias, quand on raconte le sport. Voilà.
Évidemment.
C'est la revanche. Évidemment. Regarde, on a parlé de l'UBB tout à l'heure. On ne fait que parler de l'UBB dans la revanche avec le Stade Toulousain.
Bien sûr.
Dans ce qu'il est constitué, c'est d'aller essayer gagner. Enfin, on va parler du Giro dans une semaine. Vingegaard va prendre le départ. Il n'arrête pas de dire, cette année, c'est moi qui vais gagner le tour. Il a gagné deux fois, Pogacar, les dernières années. Ça va être mon tour maintenant. Il est, lui, dans sa construction comme sportif de haut niveau aujourd'hui dans l'idée de prendre sa revanche sur Tadej Pogacar.
Et le duel,
c'est pas que les journalistes qui le font, c'est aussi les sportifs eux-mêmes.
Oui, mais le fait qu'il annonce ça, le duel,
je pense qu'il en a besoin.
Exactement, mais ça veut dire que le duel sur le tour, quelle que soit l'issue, on aura une forme de respect. Vingegaard, s'il perd contre Pogacar, en ayant tout annoncé, en ayant fait tous les efforts, il irait voir Pogacar en disant...
Mais non, mais le duel,
Et si Pogacar...
Mais Pogacar, il est rentré dans la tête de Vingegaard.
Je suis sûr qu'il aura cette forme de respect en disant que le mec, il a été capable de venir me chercher et de me battre là-dessus.
Moi, je trouve
bravo.
Que Vingegaard, c'est Poulidor maintenant.
Peut-être, mais on verra.
On va voir. Il a gagné le Tour de France, Vingegaard, qui va essayer de gagner le Giro pour la première fois et gagner tous les grands tours. On en parlera la semaine prochaine au départ du Giro d'Italia. On ferme la porte du vestiaire, les amis.